La sonde s'est éteinte. En recevant ce rapport de l'officier de service, le docteur Kuhn et le général Robinson restèrent abasourdis. Ils savaient qu'une fois que la nouvelle serait connue, elle provoquerait d'énormes vagues tant dans la communauté internationale terrestre qu'au sein des nations spatiales. Kuhn et Robinson se trouvaient à présent dans la station de surveillance Ringer Fitzgerald, en orbite autour du Soleil, à l'extérieur de la ceinture d'astéroïdes. Dans l'espace, à une distance de 5 km de la station, flottait l'un des objets les plus étranges du système solaire. Une structure composée de 6 lentilles gigantesques, dont la plus large, située à son sommet, atteignait 1200 mètres de diamètre. C'était le tout dernier télescope spatial humain. Il différait des 5 générations précédentes de Hubble en cela que celui-ci ne possédait aucun barillet. Les lentilles n'étaient d'ailleurs même pas reliées entre elles, elles flottaient indépendamment les unes des autres. Chacune d'entre elles était équipée de propulseurs ioniques qui permettaient de régler avec précision leur distance relative et leur angle d'orientation. Au moment d'effectuer les tâches d'entretien, les ingénieurs et les techniciens qui se déplaçaient entre les lentilles avaient constaté que des deux côtés de l'univers observé par le télescope se produisait une distorsion étonnante. Si la lentille composée était en revanche placée selon un angle juste, la membrane de protection reflétait la lumière du soleil et révélait parfaitement l'énorme lentille. À ce moment-là, sa surface convexe la faisait ressembler à une planète drapée de lumières enchanteresses. Cette nouvelle génération de télescopes spatiaux n'était plus appelée en référence à Hubble. On lui avait donné celui de Ringer Fitzgerald en hommage aux deux individus qui avaient pour la première fois détecté les sillages de la flotte trisolarienne. Même si leur découverte n'avait eu aucune réelle portée scientifique, cette énorme lentille composée, au financement de laquelle avaient participé conjointement les 3 grandes forces spatiales, avait toujours pour mission principale de surveiller les mouvements de la flotte trisolarienne. À l'instar de Ringer et Fitzgerald, 2 individus étaient co-responsables du télescope. Un scientifique de premier ordre venu de la Terre et un officier militaire. Chaque binôme connaissait les mêmes querelles que celles qui avaient jadis animé la relation entre Ringer et Fitzgerald. Le docteur Kuhn souhaitait dégager davantage de temps pour mener ses propres recherches sur l'univers, tandis que Robinson travaillait à l'en empêcher pour sauvegarder les intérêts de la flotte. Ils se disputaient aussi sur d'autres sujets. Kuhn rappelait par exemple souvent que les États-Unis et les autres vieilles superpuissances de la Terre n'avaient jamais été aussi bureaucratiques et inefficaces que l'étaient aujourd'hui les 3 flottes spatiales. Mais chaque fois, Robinson démontait pièce par pièce ces fantasmes historiques qu'il jugeait ridicules. Le sujet le plus explosif entre eux portait toutefois sur la vitesse de rotation de la station. Le général insistait pour effectuer une rotation lente, générant une faible gravité, ou bien pour ne pas faire de rotation du tout afin de laisser la station dans une confortable situation d'apesanteur. Kuhn s'obstinait au contraire à donner à la station une vitesse de rotation suffisamment rapide pour générer une gravité terrestre standard. Mais ce qui venait de se passer leur fit tout oublier. L'extinction de la sonde signifiait probablement que ses moteurs avaient été éteints. La sonde avait commencé à ralentir 2 ans plus tôt, au-delà du nuage d'Oort. Ses moteurs s'étaient mis en marche et la guidaient vers le système solaire. Le télescope spatial avait donc pu les suivre grâce aux lueurs émises par ces mêmes moteurs. Ces lumières disparues, le télescope n'était plus en mesure de poursuivre ce pistage, car la sonde était trop petite. Sur la base du sillage qu'elle avait laissé dans les nuages de poussière interstellaire, elle ne faisait sans doute que la taille d'un camion. Ce minuscule objet situé en périphérie extérieure de la ceinture de Kuiper s'était arrêté d'émettre de la lumière et peinait à refléter la lumière provenant des faibles rayons du soleil. Même un télescope aussi puissant que le Ringer Fitzgerald était incapable de détecter dans les ténèbres de l'espace un appareil aussi sombre et d'aussi petite taille. Les trois flottes ne sont bonnes qu'à une chose, se taper dessus à longueur de journée pour savoir qui aura le privilège d'entrer la première en contact avec la sonde. Et voilà, il ne manquait plus que ça, la cible est perdue, lâcha Kuhn en colère. Il n'avait pas remarqué que la station de surveillance était maintenant en état d'apesanteur et ses gestes brutaux avaient simplement eu l'effet d'un léger soubresaut. Ce fut la première fois que le général Robinson ne prit pas la défense des flottes. À l'origine, la flotte asiatique avait dépêché trois vaisseaux légers et ultra-rapides pour suivre la sonde à une distance plus réduite, et c'était précisément cette manœuvre qui avait mis le feu aux poudres et fait éclater la polémique des droits d'interception entre les trois flottes. Le comité conjoint de la flotte solaire avait réussi à leur faire accepter de rappeler tous les vaisseaux dans leur spatioport. La flotte asiatique s'était pourtant justifiée en expliquant que, pour accélérer, les vaisseaux devaient larguer leurs armes et leurs équipements externes. Deux pilotes seuls à bord ne pouvaient rien tenter d'autre que suivre la sonde sans pouvoir l'intercepter. Malgré cela, les deux autres flottes n'avaient pas été convaincues et avaient insisté pour que tous les vaisseaux rentrent au bercail. Ce serait une quatrième entité, terrestre et internationale, qui s'occuperait de cette mission. Sans cette dernière contrainte, les vaisseaux de la flotte asiatique auraient été suffisamment proches de la sonde pour pouvoir la poursuivre, mais les appareils envoyés par la Fédération européenne et la Chine n'avaient pas encore passé l'orbite de Neptune. « Peut-être que ces moteurs vont redémarrer ?» tenta le général. « Sa vitesse est encore importante. Si elle ne décélère pas, elle ne pourra pas rester en orbite solaire. Elle risque même de dépasser le système solaire. » « Êtes-vous l'amiral de la flotte trisolarienne ? Si ça se trouve, la sonde n'a pas du tout l'intention de demeurer dans le système solaire. Elle veut peut-être aller bien plus loin. » Tout en disant cela, Kuhn pensa soudain à quelque chose. « Si ses moteurs sont arrêtés, elle ne va pas pouvoir changer sa course. Est-ce qu'on ne pourrait pas calculer sa trajectoire et envoyer un appareil sur sa route ?» Le général secoua la tête. « Ce n'est pas assez précis. » Ce n'est pas comme si des avions de l'armée de l'air cherchaient quelque chose dans l'atmosphère. La moindre erreur initiale, même infime, et il peut y avoir un décalage de quelques centaines de milliers, voire de plusieurs millions de kilomètres. Dans une zone d'une telle immensité, un objet aussi petit et aussi sombre est introuvable. Mais on va bien finir par trouver un moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Laissons les flottes se débrouiller. Le ton du général se durcit à nouveau. « Docteur, il faut que vous compreniez bien la situation. Même si nous n'y sommes pour rien, les médias n'en auront rien à faire. Pour eux, la station de surveillance Ringer Fitzgerald a pour mission de suivre la sonde trisolarienne dans l'espace lointain. En cas d'échec, ils vont nous tomber dessus. » Kuhn n'ajouta rien. Le corps perpendiculaire à celui du général, il réfléchissait. « N'y a-t-il rien qui pourrait nous être utile au-delà de l'orbite de Neptune ?» demanda-t-il. « Probablement rien du côté des flottes. Pour ce qui est de la Terre... » Le général se tourna vers l'officier en service. Il obtint rapidement une réponse. Le Bureau environnemental des Nations Unies disposait de quatre vaisseaux de grande taille près de Neptune, chargés d'effectuer un premier travail de développement du projet « Parapluie de brume ». Trois vaisseaux de poursuite pourraient décoller de ces appareils à la recherche de la sonde. « Ils sont là-bas pour exploiter les mines d'oléatine ?» demanda Kuhn, qui obtint une réponse positive. L'oléatine était une substance découverte dans les anneaux de Neptune. Sous haute température, elle se changeait en un corps gazeux se diffusant rapidement avant de se condenser en nanoparticules dans l'espace et de former de la poussière spatiale. Cette substance, une fois évaporée, avait une grande capacité d'éparpillement. Une faible quantité pouvait suffire à former un grand nuage de poussière. Elle tenait son nom de la manière qu'elle avait de se répandre, un peu comme une petite goutte d'huile formant une grande membrane à la surface d'un large volume d'eau. La poussière spatiale formée à partir d'oléatine possédait une autre singularité. Contrairement aux autres poussières cosmiques, la poussière d'oléatine n'était pas facilement dispersée par les vents solaires. C'était la découverte de l'oléatine qui avait rendu possible le projet Parapluie de brume. Celui-ci consistait à utiliser des explosions nucléaires pour évaporer et disperser l'oléatine dans l'espace, de telle manière à former entre le Soleil et la Terre un nuage de poussière capable de contenir les radiations solaires sur Terre et de réduire le réchauffement climatique provoqué par l'effet de serre. Si je me souviens bien, il doit se trouver près de l'orbite de Neptune quelques superbombes stellaires qui datent d'avant la guerre, non? Oui. Les vaisseaux du projet Parapluie de brume en ont aussi dans leur chargement. Ils doivent les déclencher au niveau des anneaux et des satellites neptuniens, mais je ne connais pas leur chiffre exact. Je pense qu'une seule pourrait suffire, s'enthousiasma Kuhn. Plus de 5000 bombes à hydrogène stellaire, développées 2 siècles plus tôt grâce au plan du collimateur Manuel Rey Diaz, avaient été produites. Même si leur effet serait limité lors de l'ultime bataille, comme l'avait prédit Rey Diaz, les grandes puissances en avaient commandé la production dans l'éventualité d'une guerre interplanétaire entre les humains. Les bombes avaient pour la plupart été construites pendant le Grand Ravin, à une époque où la pénurie des ressources rendait les relations internationales extrêmement tendues. Un conflit entre humains menaçait d'exploser à la moindre crise. À l'aube de la nouvelle ère moderne, ces terribles armes furent considérées comme des objets dangereux et superflus. Si elles appartenaient encore aux pays terrestres, elles étaient maintenant stockées dans des entrepôts spatiaux. Une petite partie d'entre elles avait été utilisée à l'occasion de chantiers planétaires, et une autre envoyée en orbite dans le système solaire externe, dans l'idée que le matériel de fusion des superbombes puisse un jour servir de combustible additionnel pour des vaisseaux partant pour des voyages interstellaires lointains. Cependant, en raison de la difficulté abyssale à démanteler les bombes, cette idée n'avait jamais réellement été expérimentée. « Vous croyez que ça va marcher ?» demanda Robinson, le regard pétillant. Il s'en voulait de ne pas avoir lui-même pensé à cette alternative. L'occasion d'entrer dans les annales de l'histoire avait été saisie par Kuhn. Essayons, je ne vois que ce moyen. Si votre idée fonctionne, docteur, je vous promets que la station Ringer-Fitzgerald aura pour toujours une vitesse de rotation lui permettant de générer une gravité de 1G. C'est la plus grande chose jamais construite par l'homme, lâcha le capitaine de l'ombre bleue en regardant l'espace noir à l'extérieur de la cabine. Rien n'était visible, mais il essaya de se convaincre qu'il pouvait distinguer le nuage de poussière. Pourquoi n'est-il pas éclairé par le soleil, comme la queue d'une comète? Demanda le pilote, le seul autre membre de l'équipage, avec le capitaine. Il savait que la densité du nuage était aussi faible que la queue d'une comète, soit presque celle d'un vide créé dans un laboratoire terrestre. « Sans doute parce que les rayons sont trop faibles », répondit le capitaine en se tournant pour examiner le soleil. Dans l'espace vide et froid situé entre l'orbite de Neptune et la ceinture de Kuiper, le soleil ne paraissait être qu'une grande étoile dont on parvenait simplement à discerner les contours du disque. Ces rayons pouvaient certes projeter des ombres sur les cloisons de la cabine, mais ils étaient extrêmement faibles. Et puis, une queue de comète doit être observée depuis une certaine distance pour être vue, tandis que nous, nous sommes tout juste aux marges du nuage. Le pilote fit tout son possible pour se représenter mentalement cette fine mais énorme présence. Quelques jours plus tôt, le capitaine et lui avaient vu de leurs yeux le nuage, alors qu'il était encore de petite taille et à l'état solide. À ce moment-là, le Pacifique, gigantesque vaisseau arrivé de Neptune, avait gagné cette portion de l'espace pour déposer 5 cargaisons. Tout d'abord, une bombe à hydrogène stellaire datant d'avant la guerre. Un cylindre long de 5 mètres avec un diamètre d'1,5 mètre. Ensuite, le bras mécanique du Pacifique avait sorti 4 grandes sphères de diamètre varié allant de 30 à 50 mètres. Ces 4 sphères, composées d'oléatine originaire des anneaux de Neptune, avaient été placées à quelques centaines de mètres de la bombe. Celle-ci avait été mise à feu après que le Pacifique se fût éloigné de la zone. La lumière et la chaleur folle du petit soleil qui s'était formé avaient déferlé dans les abysses glacées de l'espace et les quatre sphères d'oléatine s'étaient immédiatement évaporées. Ces corps gazeux avaient ensuite été dispersés à grande vitesse par l'ouragan radioactif provoqué par l'explosion. Sous l'effet du froid, elles s'étaient ensuite métamorphosées en minuscules particules et avaient formé un nuage de poussière dont le diamètre s'étendait maintenant sur 2 millions de kilomètres, soit plus grand encore que celui du Soleil. Le nuage de poussière d'oléatine se situait dans une région qui serait bientôt traversée par la sonde trisolarienne, selon un calcul effectué à partir de la trajectoire de la cible avant l'arrêt de ses moteurs. Ce projet, imaginé par le docteur Kuhn et le général Robinson, était fondé sur l'espoir que la sonde laisse un sillage dans ce nuage artificiel et fournisse donc des informations bien plus précises sur sa position et sa trajectoire. Après avoir achevé la fabrication du nuage, le Pacifique retourna sur Neptune, laissant sur place 3 vaisseaux d'envergure modeste dont la mission serait de poursuivre la sonde à une distance proche lorsqu'elle aurait révélé son sillage. L'ombre bleue était l'un d'entre eux. Ces petits engins extrêmement rapides étaient appelés bolides spatiaux. La seule charge utile qu'ils pouvaient prendre à bord se limitait en fait à 5 passagers qui devaient partager une seule et même cabine. Le reste était occupé par son moteur à fusion. Cela lui donnait une grande capacité d'accélération tout en préservant sa manœuvrabilité. Une fois le nuage de poussière formé, l'ombre bleue avait traversé la zone afin de vérifier qu'il laissait bien un sillage derrière lui. Le résultat avait été très satisfaisant. Bien entendu, le sillage n'avait pu être détecté que par un télescope spatial situé à 100 d'unités astronomiques, car à bord de l'ombre bleue, il était tout simplement impossible de voir la poussière d'oléatine et le sillage de l'appareil. L'espace autour d'eux paraissait toujours aussi éternellement vide. Après avoir franchi le nuage, le pilote avait pourtant soutenu qu'il avait l'impression que le soleil s'était assombri et que ses contours, à l'origine très clairs, étaient devenus flous. Des observations réalisées par des instruments spécialisés avaient confirmé ce phénomène, mais c'était bien la seule impression visuelle laissée par la plus titanesque création de l'histoire de l'humanité. « Plus que 3 heures, » dit le capitaine en regardant sa montre. Le nuage de poussière de l'Oléatine était en fait un satellite géant et extrêmement fin tournant autour du Soleil. Sa position ne cessait pourtant d'évoluer. Dans peu de temps, il se retrouverait enfin dans la zone que traverserait la sonde et un autre nuage serait créé derrière lui. « Souhaitez-vous vraiment que nous puissions rattraper la sonde ?» demanda le pilote. « Pourquoi pas ? Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Mais est-ce que ce truc ne risque pas de nous attaquer ? Nous ne sommes pas des soldats. Ça devrait être aux flottes spatiales de s'en occuper. » À ce moment précis, l'ombre bleue reçut un message transmis par la station de surveillance Ringer Fitzgerald. Celui-ci rapportait que la sonde trisolarienne était déjà entrée dans le nuage de poussière d'oléatine et qu'elle y avait laissé un sillage. Les paramètres précis de sa trajectoire avaient été calculés et l'ombre bleue devait immédiatement se mettre en route pour retrouver la cible et la suivre à une distance proche. L'ombre bleue se trouvait maintenant à une distance de plus de 100 unités astronomiques de la station de surveillance, et le message avait été reçu avec un décalage d'une 10 heures. Mais la sonde était comme une clé ayant laissé son empreinte dans de l'encre à sceaux. Les calculs de sa trajectoire avaient été effectués, prenant en compte l'effet du nuage de poussière. La jonction n'était qu'une question de temps. L'ombre bleue s'orienta sur la trajectoire de la sonde et entra une nouvelle fois dans le nuage invisible, faisant cap cette fois vers la sonde trisolarienne. Le voyage leur parut long. Plus de 10 heures s'étaient écoulées et le capitaine et le pilote étaient épuisés. Toutefois, la distance qui ne cessait de se réduire avec la sonde les rendait nerveux.
« Je la vois, je la vois !» cria le pilote.
« Qu'est-ce que tu racontes ?» « Il reste encore plus de 14 000 kilomètres !» gronda le capitaine. Même dans un ciel complètement transparent, l'œil nu était absolument incapable de voir un camion à 14 000 kilomètres de distance. Mais très vite, le capitaine aussi aperçut la cible. dans la direction indiquée par les paramètres, sur le fond de la silencieuse voûte étoilée, un point de lumière était en train de se mouvoir. Après une courte réflexion, le capitaine comprit. Ce nuage de poussière plus large que le soleil avait été construit pour rien. La sonde trisolarienne avait rallumé ses moteurs et continuait sa décélération. Elle n'avait pas l'intention de franchir le système solaire. Elle s'arrêterait ici. Comme il ne s'agissait que d'une mesure temporaire, la cérémonie de passation des pouvoirs de commandement du Sélection naturelle fut sobre et discrète. N'était présent que la commandante Dongfang Yeonsu, le futur commandant exécutif Chang Beiyei, le premier vice-commandant Levin et le deuxième vice-commandant Akira Inoue, ainsi que quelques délégués de l'état-major général. Le haut niveau de développement technologique de l'époque ne parvenait pas à dissimuler la stagnation des théories fondamentales. Le sélection naturelle utilisait encore les anciens systèmes d'authentification, reconnaissance d'empreintes digitales, d'empreintes rétiniennes et utilisation d'un mot de passe. L'intelligence artificielle à bord des vaisseaux spatiaux était toujours incapable d'authentifier un visage humain. Les délégués de l'état-major paramétrèrent les nouvelles données d'authentification pour procéder au transfert, puis Dongfang Yeonsu confia le mot de passe à Chang Beiyei. « Men always remember love because of romance only », dit Dongfang Yeonsu en regardant Chang Beiyei avec un air de défi. « Je ne crois pas me souvenir que vous fumiez », répondit tranquillement Chang Beiyei. « Et cette marque, Marlboro, a disparu depuis l'époque du Grand Ravin », ajouta Dongfang Yeonsu en baissant la tête avec une pointe de déception. « Mais c'est un excellent mot de passe. Même à notre époque, peu de gens connaissaient cette phrase. » La commandante et les vice-commandants partirent, laissant Chang Beiyei seul pour modifier son mot de passe et devenir ainsi maître à bord. « Il est intelligent !» dit Akira Inoue quand la porte de la cabine sphérique eut disparu. « C'est une sagesse ancienne, » ajouta Dongfang Yeonsu en observant l'emplacement où la porte de la cabine s'était évanouie, comme si elle voulait voir à travers. Ce quelque chose vieux de 2 siècles qu'il a apporté avec lui, nous ne pourrons jamais l'apprendre. Mais lui peut apprendre de nous. Puis la commandante et les 2 vice-commandants firent silence et attendirent. 5 minutes passèrent. C'était de toute évidence trop long pour changer un mot de passe, d'autant que celui qui s'apprêtait à devenir commandant intérimaire s'était révélé être le plus doué de tout le contingent de renfort lors de la formation de maîtrise du système de commandement. 5 autres minutes passèrent, les 2 vice-commandants voltigeant avec impatience le long du couloir en apesanteur. Seul Dongfang Yeonsu demeurait calme et immobile. Enfin, la porte réapparut. Les 3 officiers découvrirent que l'intérieur de la cabine sphérique s'était assombri. Chang Beiyei avait affiché une carte stellaire holographique où n'apparaissait aucune coordonnée, seulement l'image des étoiles scintillantes. De derrière la porte, lui et son interface semblaient flotter dans l'espace en dehors du vaisseau. « J'ai terminé, » dit-il. « Qu'est-ce qui vous a pris aussi longtemps ?» s'agaça Levin. « Vous savouriez le nouveau petit pouvoir qui vous a été accordé ?» demanda Akira Inoue avec mépris. Chang Beiyei ne répondit rien. Ses yeux ne regardaient pas l'interface. Il fixait l'une des étoiles lointaines de la carte stellaire. Dongfang Yeonsu s'aperçut que dans la direction où il portait son regard, scintillait un point vert. « Ce serait ridicule, » fit Levin, rebondissant sur la remarque d'Akira Inoue. « Je vous rappelle que la commandante du vaisseau est et reste le colonel Dongfang Yeonsu. Le commandant exécutif intérimaire n'est rien d'autre qu'un pare-feu. Ce n'est peut-être pas très joli à entendre, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité. « Et puis cette situation ne durera plus très longtemps, » continua Akira Inoue. « Les évaluations des officiers seront bientôt terminées. » L'enquête a presque fini de prouver que le clan des poinçonnés n'existe plus. Akira Inoue voulut encore ajouter quelque chose, mais il fut interrompu par le murmure médusé de la commandante.
« Mon Dieu !»
Les deux vice-commandants dirigèrent aussitôt leur regard vers Chang Beiyei et virent l'interface indiquant l'état opérationnel du sélection naturelle. Le vaisseau était passé en mode téléguidage, contournant par conséquent la vérification que tous les membres de l'équipage étaient bien en état de mer profonde avant de passer à l'ordre avant toute. Les communications entre le vaisseau et le monde extérieur avaient été coupées. Il ne restait plus à Chang Beiyei qu'à choisir la vitesse à laquelle serait propulsé le vaisseau. Une pression sur un bouton et le sélection naturel s'envolerait à très haute vitesse vers la cible que son nouveau commandant venait de sélectionner sur la carte stellaire.
« Non, pas ça !» dit donc Fang Yansu, à voix si basse qu'elle fut la seule à l'entendre. Elle avait prononcé cette parole pour elle-même. Elle venait d'invoquer Dieu, mais elle ne croyait pas à son existence. Pourtant, sa prière était maintenant sincère. « Vous êtes fou ?» cria Levin. Akira Inoue et lui se ruèrent vers la cabine, mais se heurtèrent à la paroi. Il n'y avait pas de porte, simplement une portion ovale du mur qui était devenue transparente. « Je vais donner l'ordre aux sélections naturelles de passer en mode avant toute. » Que tous les membres de l'équipage entrent en état de mer profonde, déclara Chang Beiyei, la voix froide et équilibrée. Chacun de ces mots resta un moment suspendu en l'air, comme s'il jetait une vieille ancre au milieu d'un vent glacial.
C'est impossible ! Hurla Akira Inoue.
Êtes-vous un poinçonné ? Demanda donc Fang Yansu, qui avait rapidement retrouvé son sang-froid.
Vous savez bien que c'est impossible.
« Un membre de l'OTT ?»«
Non plus. »«
Mais alors qui êtes-vous ?»«
Un militaire qui remplit son devoir, qui se bat pour la survie de l'espèce humaine. »«
Pourquoi agir ainsi ?»«
Je vous l'expliquerai après que nous aurons accéléré. »« Je répète que tous les membres de l'équipage entrent en état de mer profonde. »«
C'est impossible !» répéta Akira Inoue.
Chang Beiyei se retourna. Il ne se préoccupa pas des deux vice-commandants. Son regard se posa directement sur Dong Fang Yansu. Ses yeux lui firent instantanément songer à l'emblème de la spatiale. Il y avait à la fois une étoile et une épée.
« Dong Fang, je vous l'ai déjà dit. Si je n'ai d'autre choix que de vous tuer, je vous prie de bien vouloir me pardonner.
Le temps est compté, » dit-il. À cet instant, le fluide de mer profonde commença à se répandre dans la cabine sphérique où se tenait Chang Beiyei, formant d'abord des petites bulles en apesanteur. Dans chacune d'entre elles se reflétait l'image déformée de Chang Beiyei, de l'interface et de la carte stellaire. Les bulles flottantes commencèrent à s'agglutiner en bulles plus grosses. Les deux vice-commandants interrogèrent donc Fang Yansu du regard.
« Faites comme il a dit. Tout l'équipage en état de mer profonde. » ordonna la commandante à voix basse.
Les deux vice-commandants la regardèrent. Ils savaient très bien ce qu'il adviendrait des passagers qui ne seraient pas en état de mer profonde au moment où le vaisseau passerait en mode avant toute. Leur corps serait plaqué contre la cloison par une force dépassant 120 fois leur masse. Leur sang jaillirait en premier, puis sous l'effet de l'hypergravité, ils s'étendraient en une couche fine qui couvrirait bientôt une superficie gigantesque avant de s'étirer en rayon. Puis ce serait au tour de leurs organes d'être expulsés et de former une autre couche fine qui finirait par rejoindre le corps aplati pour composer une œuvre d'aliesque. Ils se retournèrent en même temps et se précipitèrent pour donner l'ordre à l'intégralité de l'équipage d'entrer en état de mer profonde.
« Vous êtes une commandante digne, » dit Chang Beiyei à Dong Fang Yansu en hochant la tête.
Cela montre de la maturité.
Où allons-nous ?
Peu importe. Ce sera toujours un choix plus responsable que celui de rester ici. Quand il eut fini de parler, Chang Beiyei fut englouti par le liquide de mer profonde. Dong Fang Yansu ne put voir que sa silhouette floue sous le fluide qui avait maintenant rempli sa cabine. Baignant dans ce liquide à moitié translucide, Chang Bei-yei se souvint d'un exercice de plongée en haute mer auquel il avait participé 2 siècles plus tôt avec la marine. Il ne s'était jamais imaginé qu'à des dizaines de mètres de profondeur, l'océan pût être aussi noir. Suspendu dans ce monde obscur, il avait éprouvé le même sentiment qu'aujourd'hui, celui que l'océan était la miniature de l'espace sur Terre. Il essaya de respirer, mais eut un réflexe nerveux et toussa violemment du liquide et du gaz résiduel qui lui firent faire un bond en arrière. Il ne ressentit pas la suffocation qu'il avait imaginée. Un fluide frais gorgeait maintenant ses poumons et l'oxygène qu'il y dégageait alimentait son sang. Il pouvait respirer aussi librement qu'un poisson dans l'eau. Chang Bei-yei regarda l'interface qui s'affichait au milieu du liquide. Il vit que le fluide remplissait peu à peu l'intégralité du vaisseau. Ce processus se poursuivit pendant plus de 10 minutes. Peu à peu, sa conscience se troubla, tandis que le fluide respiratoire commençait à libérer des substances anesthésiantes afin que l'équipage s'endorme et ne subisse pas les dommages cérébraux provoqués par la pression et le manque d'oxygène généré par l'accélération. Chang Bei-yei sentit descendre l'âme de son père. Elle atterrit sur le vaisseau et se fondit en un seul corps avec lui. Il appuya sur le dernier bouton de l'interface, prononçant au fond de lui cet ordre pour lequel il avait consacré sa vie. Sélection naturelle, avant toute. Un petit soleil émergea brusquement en orbite de Jupiter. L'intensité de ses rayons ternit la phosphorescence de l'atmosphère de la planète. Tirant ce petit soleil derrière lui, le vaisseau interstellaire de combat, le Sélection naturelle, se détacha lentement du spatioport de la flotte asiatique, puis accéléra rapidement, projetant les ombres des autres vaisseaux de la flotte, chacune capable à elle seule d'engloutir une terre entière, sur la surface jovienne. 10 minutes plus tard, une ombre encore plus grande fut projetée, comme un rideau qui aurait été tiré sur cette planète géante. C'était celle du Sélection naturelle qui dépassait Io. Ce ne fut qu'à ce moment-là que le poste de commandement de la flotte asiatique eut confirmation de cette réalité incroyable. Le Sélection naturelle avait déserté. Les flottes européennes et nord-américaines firent part de leur indignation et lancèrent des avertissements à la flotte asiatique. Tout d'abord persuadée que celle-ci venait de lancer une opération pour aller intercepter la sonde trisolarienne, mais très vite, elles découvrirent, en constatant la trajectoire de navigation prise par le Sélection naturelle, qu'il n'en était rien, car il était parti dans une direction opposée à celle de l'envahisseur trisolarien. Les différents systèmes de communication, ne recevant toujours aucune réponse du Sélection naturelle, cessèrent d'émettre. On commença à organiser l'opération de poursuite et d'interception du vaisseau. Hélas, l'amiral constata rapidement qu'il n'y avait maintenant presque plus rien à faire contre ce vaisseau déserteur. Sur les nombreux satellites de Jupiter, 4 bases auraient eu une puissance de feu suffisante pour détruire le Sélection naturelle, mais il ne pouvait se résoudre à ordonner une telle offensive. La mutinerie n'était peut-être le fait que de quelques membres de l'équipage, voire d'un seul. Les quelques 2000 officiers et soldats à bord du vaisseau étaient pris en otage. Par conséquent, dans la base du laser de rayon gamma d'Europe, les officiers ne purent que regarder ce petit soleil frôler le ciel et mettre le cap vers l'espace lointain. Sous les lueurs du vaisseau, la vaste banquise d'Europe sembla se recouvrir de phosphore brûlant. Le Sélection naturelle traversa les orbites des 16 satellites joviens. Il avait presque atteint la vitesse de fuite en franchissant Callisto. Depuis la base principale de la flotte asiatique, ce petit soleil se réduisit peu à peu pour devenir une étoile lumineuse qui resterait encore faiblement visible pendant une semaine, comme une allusion à la douleur infinie qui touchait maintenant la flotte asiatique. Comme eux aussi devaient entrer en état de mer profonde, les vaisseaux de poursuite ne décollèrent que 45 minutes après le Sélection naturelle. Jupiter fut ébloui par 6 nouveaux soleils. Dans le poste de commandement de la flotte asiatique qui avait arrêté sa rotation, l'amiral fixait silencieusement la gigantesque face obscure de Jupiter. 10 000 kilomètres sous ses pieds, des éclairs se déchaînaient dans l'atmosphère. Les puissantes radiations des moteurs à fusion nucléaire du Sélection naturelle et des vaisseaux envoyés à sa poursuite. À cette distance, on ne distinguait que les halos fugaces des éclairs illuminant l'atmosphère, qui transformaient la surface de Jupiter en un étang sur lequel perlaient des gouttes de pluie fluorescente. Le Sélection naturelle continua à accélérer en silence jusqu'à 1/100 de la vitesse de la lumière. Point de non-retour au vu de la consommation des combustibles de ses moteurs. Il ne pouvait déjà plus compter sur sa propre force motrice pour retourner dans le système solaire. Il était devenu un voilier solitaire, destiné à voguer pour l'éternité dans l'espace lointain. L'amiral de la flotte asiatique plongea son regard dans les étoiles. Il essaya de repérer laquelle d'entre elles était le Sélection naturelle, mais il ne la trouva pas. Dans cette direction, on ne voyait plus que les 6 légères lueurs des moteurs à fusion des vaisseaux de poursuite. Il reçut rapidement un rapport indiquant que le Sélection naturelle avait déjà cessé son accélération. Peu de temps plus tard, les communications avec le vaisseau furent rétablies. En raison de la distance de 5 millions de kilomètres qui séparait maintenant les deux entités, le dialogue eut lieu avec un décalage d'une 10aine de secondes. Ce qui suit est l'enregistrement de cet échange.
Sélection naturelle. Sélection naturelle appelle flotte asiatique. Sélection naturelle appelle flotte asiatique.
Flotte asiatique.
Bien reçu, sélection naturelle. Ici flotte asiatique. Veuillez indiquer votre situation actuelle.
Sélection naturelle.
Ici le commandant exécutif Chang Beiyei, je souhaiterais échanger directement avec l'amiral.
Amiral.
J'écoute.
Chang Beiyei. J'assume l'entière responsabilité de la fuite du Sélection naturelle.
Y a-t-il d'autres responsables?
Non, je suis le seul. Aucun autre membre du vaisseau n'est impliqué. Au moment crucial, la commandante Dongfang Yansu a pris la décision la plus juste.
Je souhaiterais lui parler.
Pas maintenant.
Quelle est la situation à bord?
Tout va bien. À part moi, tout l'équipage est encore en état de mer profonde. Le système d'alimentation et l'écosystème autorégénératif fonctionnent normalement.
La raison de votre trahison?
Nous avons en effet déserté, mais ce n'est pas une trahison.
Votre raison?
L'humanité va perdre cette guerre. Je souhaite simplement sauvegarder pour la Terre un vaisseau interstellaire. Préserver une graine de civilisation humaine dans l'univers. Un brin d'espoir.
Ce qui signifie que vous êtes un évasionniste.
Je ne suis qu'un militaire qui s'efforce de faire son devoir.
Vous avez été poinçonné?
Vous savez bien que c'est impossible. Quand je suis entré en hibernation, cette technologie n'existait pas encore.
Dans ce cas, un tel défaitisme est irrationnel.
Je n'ai pas besoin de poinçonnage mental. Je suis le maître de mes propres convictions. Si ma foi est si résolue, c'est qu'elle n'est pas le résultat de ma seule intelligence. À l'aube de l'apparition de la crise trisolarienne, mon père et moi avons commencé à réfléchir aux questions fondamentales de cette guerre. Peu à peu, nous avons constitué un groupe rassemblant certains des chercheurs les plus brillants de notre temps. Des scientifiques, des politiciens, des stratèges militaires. Ils s'appelaient eux-mêmes les historiens du futur.
Était-ce une organisation secrète?
Non. Les questions étudiées par ces chercheurs étaient fondamentales. Leurs discussions ont toujours été conduites publiquement. L'armée et le gouvernement ont même participé à plusieurs reprises aux conférences que nous avons eu l'occasion d'organiser sur l'histoire du futur. C'est à partir des travaux de ces chercheurs que j'ai pu établir cette conviction que les humains allaient perdre la guerre.
Mais tout prouve aujourd'hui que ces théories étaient fausses.
Amiral, vous sous-estimez les historiens du futur. Non seulement ils ont prédit le grand ravin, mais aussi le deuxième mouvement des Lumières et la deuxième Renaissance. L'époque puissante et prospère que nous connaissons aujourd'hui a également été décrite par eux dans les moindres détails. Pour finir, ils ont prédit la défaite et l'anéantissement de l'humanité lors de l'ultime bataille.
Mais enfin, le vaisseau dans lequel vous vous trouvez maintenant est capable de naviguer à une vitesse de 15% de la vitesse de la lumière.
la vitesse d'attaque des cavaliers de Genghis Khan était similaire à celle des chars blindés du XXe siècle. Les balistes Chuangnu de la dynastie des Song du Nord avaient une portée de 1500 mètres, soit à peu près autant que les fusils d'assaut du XXe siècle. Mais en fin de compte, cela reste des cavaliers et des balistes. Ils seraient incapables de rivaliser avec la puissance militaire moderne. Tout repose sur les sciences fondamentales. Les historiens du futur ont vu avec clarté ce point. Mais vos yeux, à vous, sont aveuglés par le reflet des lumières de vos basses technologies. Vous vous laissez bercer par la civilisation moderne sans vous préparer mentalement à l'ultime bataille qui décidera du destin de l'humanité.
Vous êtes issu d'une grande armée qui a déjà remporté des victoires contre des ennemis bien mieux équipés qu'elle, qui a vaincu l'une des armées les mieux préparées du monde en s'emparant de son armement. Votre attitude est une insulte à la gloire de cette armée.
Sauf votre respect, amiral. Je suis plus légitime que vous pour parler de l'armée chinoise. Cela fait 3 générations que ma famille est à son service. Durant la guerre de Corée, mon grand-père a lancé lui-même à main nue une grenade contre un char Pershing. La grenade a rebondi, roulé sur le char et explosé. La cible s'en est sortie avec quelques impacts, mais mon grand-père a reçu des tirs de canon du tank et s'est fait sectionner les 2 jambes par ses chenilles. Il a passé le restant de sa vie sur un lit d'hôpital. Mais il a été chanceux. Ses 2 camarades ont été réduits en bouillie par le char. C'est cela, l'histoire de cette armée. C'est cela qui nous rappelle chaque fois l'importance du fossé technologique entre 2 armées se livrant en bataille. Cette gloire dont vous parlez est rapportée par les livres d'histoire. Tandis que nous avons cicatrisé nos blessures avec le sang de nos pères et de nos grands-pères. Nous savons bien mieux que vous ce qu'est la guerre.
Quand avez-vous commencé à planifier cette trahison?
Je répète, même si c'est une fuite, il ne s'agit pas d'une trahison. J'ai eu l'idée de ce plan le jour où j'ai vu pour la dernière fois le visage de mon père. J'ai lu dans ses yeux ce que je devais faire, et cela m'a pris 2 siècles pour mettre ce projet à exécution.
Et pour atteindre votre but, vous vous êtes fait passer pour un triomphaliste inébranlable. Votre camouflage a été très efficace.
Mais Chang Weizi a failli voir clair en moi.
Oui, il était conscient de l'absence de fondement de votre foi triomphaliste. Votre enthousiasme excessif à vouloir lancer la construction de vaisseaux stellaires à propulsion radiative sans médium a renforcé ses soupçons à votre égard. Il s'est sans cesse opposé à ce que vous rejoigniez le contingent des renforts, mais il n'a pas pu agir contre les instructions de sa hiérarchie. Dans la lettre qu'il nous a transmise, il nous a adressé un avertissement, mais dans un style allusif, typique de votre époque. Nous l'avons ignoré.
Pour obtenir des vaisseaux capables de vols interstellaires, j'ai tué 3 hommes.
Cela, nous l'ignorions. Peut-être que tout le monde l'ignorait. Mais il y a un point sur lequel on peut être sûr. C'est que le changement d'orientation de la recherche initiale sur le développement des vaisseaux cosmiques a été décisif.
Merci de me le dire.
Je dois aussi vous dire que votre plan a échoué.
Il échouera peut-être. Mais pas encore.
Lors de son décollage, le sélection naturel n'avait à son bord qu'un 1/5 des combustibles de fusion qu'il aurait pu emporter.
Je devais agir immédiatement. Aucune autre chance ne se serait présentée à moi.
Cela signifie que vous serez uniquement capable d'accélérer à 1/100 de la vitesse de la lumière. Vous ne pourrez pas consommer trop de combustible, car l'écosystème autorégénératif aura lui aussi besoin d'énergie pour maintenir son bon fonctionnement. Au plus court, il pourra encore tenir quelques décennies. Au plus long, quelques siècles. Mais à cette vitesse de navigation, les vaisseaux lancés à votre poursuite vous rattraperont sans difficulté.
Je contrôle toujours le sélection naturel.
En effet. Et vous connaissez naturellement notre inquiétude. Les vaisseaux de poursuite vous forceront à accélérer et à épuiser vos combustibles. L'écosystème autorégénératif s'arrêtera de fonctionner faute d'énergie suffisante. Le sélection naturel deviendra alors un vaisseau mort, à une température proche du zéro absolu. C'est pourquoi les vaisseaux de poursuite devront garder leur distance avec le sélection naturel. Nous sommes confiants dans le fait que les officiers et les soldats à bord du sélection naturel régleront eux-mêmes ce problème.
Je suis aussi convaincu que tous les problèmes seront résolus. J'assumerai mes responsabilités le moment venu, mais pour l'heure, je suis fermement convaincu que le sélection naturelle navigue dans la juste direction.